Hello et bienvenue sur New How Did You Make It, le podcast au sein duquel nous explorons chaque étape qui a construit le parcours professionnel de personnes plus différentes les unes des autres, à travers la découverte de leurs habitudes, de leurs passions, de leurs intérêts au cours des dernières décennies. Moi, c'est Yusra, votre hôte. Et aujourd'hui, on rencontre Lubna. Lubna travaille sur les sujets dont tout le monde parle en ce moment. L'intelligence artificielle, les large language models, LLMs. T'as dû en entendre parler aussi. Au sein d'une des plus grandes entreprises tech au monde, Microsoft. Assez incroyable, non? Tu vas pouvoir découvrir ce qui se cache derrière tout le travail que ça demande avant d'y arriver. Et surtout, comment Lubna a surmonté toutes les difficultés qui se sont présentées à elle et comment tu peux faire face aux tiennes. Comme dans tous les épisodes, on va parler de ses années lycée, collège, mais aussi à l'université. Et en fait, elle va te donner tellement de conseils. Et là, je pense à trois conseils qui m'ont marqué. Dans le chaos, donne ton maximum et si tu peux pas, c'est pas grave. Identifie tes lacunes et trouve des solutions graduellement. Et la dernière, qui est hyper importante, tes profs sont des sources d'information dans la matière qu'ils enseignent. Même s'ils te passionnent pas, accroche-toi. Lubna va te partager tellement de conseils. Elle te parle aussi de son changement de parcours après qu'elle était obligée de quitter ce qu'on lui avait conseillé de faire, une prépa. Elle te donne aussi les informations clés pour savoir si c'est fait pour toi. T'es prêt? T'es prête? Ok, surtout, prends des notes. Partons à sa rencontre. Hello Lubna et bienvenue dans le podcast. Je suis très contente de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Je vais te laisser te présenter avant de se lancer dans cet échange.
Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Alors, je m'appelle Lubna, j'ai 28 ans. J'ai grandi dans la région parisienne. Je suis née au Maroc. Actuellement, je vis à Dublin, en Irlande, et je suis data scientist chez Microsoft.
J'ai trop hâte qu'on parle de tout ça. Avant de commencer, est-ce que tu peux nous donner ta définition du succès?
Alors, je dirais que le succès, pour moi, c'est essayer, constamment essayer, de sortir de sa zone de confort tout en se dirigeant vers nos valeurs les plus importantes. Donc, dans mon cas, ça peut être des valeurs qui sont plus spirituelles ou religieuses, mais ça peut être des valeurs comme la discipline. Ça serait ma définition du succès, je pense. Sortir de sa zone de confort et tendre vers nos valeurs les plus fondamentales.
Est-ce que tu penses que tu avais cette même définition du succès quand tu étais au collège, lycée ou à la fac?
Non. Ma définition du succès quand j'étais au collège, c'était, pendant mes études, c'était « n'échoue pas ». L'absence d'échec, c'est du succès. Enfin, je le définis comme ça, mais en réalité, quand j'étais au collège et au lycée, le succès, pour moi, c'était être la première. Voilà. Quoi qu'il arrive, quoi que je fasse, être la première, être la meilleure, entre guillemets. Ce qui est très, très réducteur, en réalité, comme définition.
Ah, et du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes années collège? Quel type d'élève t'étais? Si t'avais des habitudes, des intérêts, des passions, des matières préférées?
Donc moi je faisais partie de... Au collège, je faisais partie des gens un peu relous qui étaient juste très bons. Je travaillais pas énormément, mais j'avais de bonnes notes partout. Je pense que je travaillais correctement. Et du coup, j'avais pas besoin de passer énormément de temps sur mes devoirs, mes révisions, etc. Plus j'avançais dans les années, plus c'était compliqué. Après, pour mes passions, j'aimais beaucoup lire. J'aime toujours lire. J'aimais jouer au basket.
T'aimes toujours jouer au basket?
J'aime toujours jouer au basket. Voilà, j'adorais aller au ciné. J'adore toujours aller au ciné. C'est chaud de se dire que j'ai pas beaucoup changé depuis le collège, mais ok.
Sur ces éléments,
ouais. Sur ces éléments, ouais.
Ok, et est-ce que tu avais des matières préférées quand tu étais au collège?
Au collège? Mais encore une fois, j'étais l'élève insupportable.
Ouais.
Toutes mes matières étaient mes matières préférées. Non, mais encore une fois, moi, quand j'étais au collège, ma personnalité, c'était l'école. Donc, c'était pas... Ce qui n'est pas une bonne chose, d'ailleurs. Je tiens à le préciser. Après, quand je suis arrivée au lycée, les maths, la SVT, et j'aimais beaucoup, en fait, les cours de français aussi. Donc voilà, c'était ceux que je préférais le plus.
Ok, et tu sais pourquoi tu préférais les maths et la SVT et le français?
Parce que je pense que parce qu'en fait, je me suis un peu convaincue que c'était les meilleures matières dans lesquelles il fallait exceller. Voilà, si je voulais être la bonne élève, si je voulais être la meilleure, si je voulais avoir toutes les portes qui s'ouvrent, c'était les matières dans lesquelles il faut taper. Tu vois, pour ce qui, encore une fois, n'est pas forcément vrai.
On en reparlera un peu. Et quand tu as fini le collège, donc là, tu avais quand même des très bonnes notes, est-ce que tu avais reçu des conseils? Est-ce qu'on te disait, Luna, faut que tu fasses ça, Luna, faut que tu fasses ça, ou est-ce qu'on te, en fait, on te donnait des conseils, que ce soit sur n'importe quel aspect de ta vie?
Je pense pas vraiment. Je me souviens que, c'est marrant que tu évoques ça, parce que j'ai le souvenir que mon père, quand il venait aux réunions parents-élèves, il posait énormément de questions par rapport à ça. Mmh. Chaque professeur qu'on a des voix, il demandait qu'est-ce que vous conseillez, qu'est-ce que vous pensez, etc. Et le conseil qu'il reçoit, donc en fait, il était en quête de cette information, et à chaque fois, ce qu'il entendait, c'était elle peut faire ce qu'elle veut, c'est très bien, si elle veut faire des études de médecine plus tard, c'est très bien. Donc ils étaient assez nonchalants par rapport à ça, ce qui, je pense, frustrait mon père énormément. Parce que lui, il était en mode, OK, qu'est-ce que vous donnez, enfin, guidez-nous un petit peu dans cette situation, sachant que, il semblait à ce moment-là que j'avais plein d'options. Donc, c'était le meilleur moment pour moi pour m'orienter. Mais bon, il disait, bon, c'est votre choix, en gros. C'était, Donc, non, bon, en gros, pas de claire directive, pas de directive claire.
OK. Ça marche. Et donc là, tu es passé au lycée et c'est au lycée que tu avais des préférences dans les maths, français et SVT, d'accord ?
Ouais, ça commençait un peu plus à se...
Ok, et tu bossais comment tes cours ?
Alors, la méthodologie, elle est très différente pour ces trois matières.
Mmh.
Les maths, la méthodologie pour les maths que je connais le mieux, parce qu'en fait, c'est ce que j'ai fait le plus longtemps, Elle est dans la pratique. Tu pratiques jusqu'à ce que il n'y ait plus de zone d'ombre. Donc, il n'y ait plus de moment où, en fait, tu résous un exercice et tu te dis, je me souviens que la réponse, c'est ça, mais je ne sais pas vraiment pourquoi la réponse, c'est ça. Ça, c'est des zones d'ombre qu'il faut effacer. Qu'il faut illuminer, en gros. Il faut aller chercher tous les moments, en fait, d'incompréhension dans les exercices, dans les résolutions d'exercices. Et en fait, en faisant ça plusieurs fois, au bout d'un moment, tu regardes tous tes cours de maths et tu te rends compte qu'en fait, tu comprends comment les choses fonctionnent. Et ça te donne la confiance que, quoi qu'il arrive, le prochain examen, le prochain exercice, tu auras des outils pour résoudre. SVT, c'était différent. SVT, il y a, moi, de ce dont je me souviens de l'époque du lycée, il y avait beaucoup de... il fallait apprendre par cœur. Il fallait apprendre par cœur. Il y avait de la pratique également, comme en maths, c'est-à-dire qu'il fallait comprendre comment les choses, elles fonctionnent. Mais pour moi, c'était vraiment beaucoup d'apprentissage par cœur. Et les cours de français ou de littérature de manière générale, philo, je pense que ça rentre un peu là-dedans aussi. Je dirais pour le français, c'est pas mal de culture générale. Je pense que le français, pour le coup, j'aimais cette matière parce qu'en fait, j'étais intéressée, en dehors de l'école, j'étais intéressée par ce monde un petit peu. Ce qui fait que c'était agréable, en fait, limite, d'étudier ça.
C'est des super conseils. En fait, ce qui est hyper intéressant avec les maths, c'est qu'en fait, ça rappelle un peu les méthodologies un peu sportives. En fait, plus tu pratiqueras et plus tu vas gérer en cours. Parce qu'en fait, seule la pratique te permettra de comprendre quelles sont tes lacunes. Qu'est-ce que tu dois améliorer.
Exactement, ouais.
Donc, ouais, c'est hyper intéressant.
En fait, t'as très bien formulé le fait de pratiquer pour révéler les lacunes. Le truc que j'ajouterais aussi, c'est que en mathématiques, peu importe le niveau, et ça, je pense que je vais le redire au fur et à mesure de notre conversation, il n'y a pas une personne qui n'a pas de lacunes en maths. Donc, les lacunes ne devraient pas être une preuve que une personne n'est pas faite pour faire des maths. Les lacunes, c'est juste quelque chose qui n'a pas encore été comprise. Voilà. Rien n'empêche que la semaine prochaine, c'est compris.
Totalement d'accord. Et là, c'est super important. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'il faut que tu apprennes à vivre dans l'inconfort. Je m'explique. Je vais prendre une situation très claire. Tu as un nouveau sujet en maths, je ne sais pas, le théorème de Pythagore ou dans une autre matière. Tu vas parfois comprendre le cours hyper rapidement ou plus ou moins. Mais du moins, tu as plus ou moins compris ce qui se passe. Et parfois, ça va être hyper compliqué car c'est très loin de ce que tu as appris jusqu'à maintenant. Ta seule mission, c'est de comprendre et de retenir. Cette mission, c'est ta responsabilité. Ça dépend que toi et personne d'autre. L'idée, c'est que tu acceptes de vivre dans cette frustration, dans cet inconfort, pour mieux avancer. Car le résultat serait le suivant. Ça te demande des efforts, tu donnes tout, tu poses des questions à ton prof ou à ta prof, tu regardes des vidéos sur YouTube pour mieux comprendre le cours, ou tu cherches des nouvelles méthodologies de travail sur TikTok, par exemple. Et à la fin, tu as compris le cours et tu gères tes devoirs et tes contrôles.
Il faut accepter que ça soit pas évident et pas clair. Faut l'accepter. Bon, ça, c'est je comprends pas pour l'instant.
Exact.
Voilà. Mais c'est tout. C'est pas plus profond que ça. C'est juste ok pour l'instant. J'y arrive pas. Je comprends pas. Mais j'ai réessayé.
Exactement. Donc là, on est au lycée avec toi. Tu termines le lycée. Est-ce que en terminant le lycée, on t'a un peu plus guidé vers un chemin ou vers un autre? Et est-ce que tu sais quel chemin prendre? Et ma dernière question sera, pourquoi t'as décidé de prendre ce chemin?
Alors, est-ce qu'on m'a plus guidée? Non, toujours pas. En fait, on me disait, tu peux faire ce que tu veux. En fait, on pouvait me présenter les avantages et les inconvénients de plusieurs chemins. Donc, on pouvait me dire, voilà, si tu fais prépa, voilà, ça va aider pour ça. Si tu fais une fac de médecine, voilà, ça va aider pour ça. Moi, pendant très longtemps, je voulais être médecin. La majorité de mes études, je voulais être médecin et j'ai changé d'avis à la fin de ma terminale. Mais au final, en fait, les professeurs, surtout, ils nous soutenaient. Je dis « ils nous », parce qu'en fait, j'inclus moi et mes parents. Ils nous soutenaient dans peu importe le choix, en réalité. En réalité, je pense que j'aurais pu dire « je vais aller faire une fac de lettres alors que j'étais en bac S ». Et on m'aurait dit « oui, pourquoi pas ?» Vu que j'avais des notes, plutôt de bonnes notes en SVT, en maths, en physique, et on me disait, voilà, médecine, faut être bon dans ces matières-là, je pouvais le faire. Mais en même temps, c'était aussi le cas pour la prépa. Une prépa MPSI, plus spécifiquement. Donc, en gros, une prépa de maths pour passer les concours nationaux, pour intégrer les écoles d'ingénieurs, voilà. Donc, c'était les deux options, en gros, que j'avais en tête. Et c'était aussi les deux options qu'on me vendait comme étant les plus prestigieuses depuis que je suis petite. Donc voilà. Je me disais, les deux. Mais j'avais un penchant vers la médecine. Et puis, en fait, en terminale, j'ai fait une terminale S. J'ai choisi de faire une spé math, donc de faire une spécialisation en mathématiques. Et en fait, je suis tombée amoureuse des mathématiques. Et je me suis dit, bon, j'ai du mal à apprendre par cœur. C'était beaucoup plus compliqué pour moi d'apprendre des cours et des cours d'SVT que de m'entraîner pendant des heures et des heures à résoudre des problèmes en maths. Donc j'avais cette préférence-là. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais passer en prépa, MPSI. Et c'est là où j'ai postulé, et c'est là où j'ai été acceptée, initialement, après le bac.
J'ai tout plein de questions. Ma première question est, qu'est-ce que tu as aimé dans les maths?
Qu'est-ce que j'ai aimé dans les maths? Alors, j'ai aimé le côté résoudre un problème, en fait. Je trouvais ça trop satisfaisant de... En fait, c'est un peu comme, si, comme quand, quand on te donne un puzzle. Et tu galères un peu au début, tu essaies ça et tout. Mais en fait, à un moment donné, tu trouves un petit rythme et tu sens que tu avances vers la solution. Et le dernier moment où tu poses la dernière pièce, c'est très satisfaisant. L'autre chose que j'aimais beaucoup, que je ne trouvais pas dans les autres matières, c'était que les mathématiques étaient complètes. C'est-à-dire que chaque exercice venait avec les outils nécessaires pour que je le résolve. Mais les maths, pour moi, c'était tellement complet. En fait, c'est comme si on te donnait sur un plateau le puzzle. Et après, tu passes à un autre plateau. Et je ne sais pas, il y a quelque chose là-dedans qui me plaisait et qui me plaît toujours énormément.
Est-ce que tu penses que tu as été chanceuse et tu as eu des bons profs qui t'ont un peu inspirée, qui t'ont fait aimer la matière?
En toute honnêteté, effectivement, oui, j'ai eu de bons profs. Mais je pense que j'ai remarqué des professeurs ou j'ai laissé les professeurs être des bons profs parce que j'aimais les maths. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est comme quand tu es passionné de danse. Et en fait, un jour, tu croises quelqu'un qui, je sais pas, qui fait de la danse dans la rue comme ça et il est trop fort. Et en fait, tu vas le remarquer d'une manière spéciale par rapport à quelqu'un qui n'est pas passionné de danse. Parce que toi, tu es passionné de danse, en fait, tu vas remarquer cette personne qui est très bonne en danse, tu vas être inspiré par cette personne qui est très bonne en danse, parce que toi-même, tu es attentif à la danse. Et en fait, t'es comme, t'as faim d'inspiration et t'as faim de quelqu'un qui te guide ou qui t'inspire. Donc moi, pour moi, j'ai eu mon professeur de maths P, je le trouvais phénoménal. Mon professeur de troisième, je le trouvais phénoménal. Et puis à l'université aussi, pour moi, c'était des génies. Mais je pense pas, par exemple, que tous mes camarades étaient d'accord par rapport au fait que ce prof est phénoménal. Je pense que moi, je l'ai trouvé incroyable parce que en fait, j'étais admirative de leur compétence dans un domaine qui est important pour moi. C'était pareil d'ailleurs. Pour les autres matières que j'ai formulées. Donc même en français, en troisième, moi j'ai eu une prof de français qui m'a fait tomber amoureuse de la lecture. Je sais très bien que c'était pas le cas pour tous les autres élèves. Tous les autres élèves, ils étaient pas d'accord sur le fait qu'elle était géniale. Pareil, pareil en SVT, par exemple, j'ai eu un professeur en SVT qui, je sais pour le coup, la majorité des élèves, en fait, ne l'aimaient pas, ne pensaient pas que c'était un très bon professeur. Mais moi, parce que j'aimais la matière, j'étais très attentive à ce qu'il disait, je cherchais ses conseils, je j'utilisais un petit peu son expérience et son expertise pour arriver à mes fins. Bon, c'est peut-être une longue réponse pour dire qu'en gros, j'avais effectivement des professeurs qui étaient objectivement très bons, mais je pense que j'avais aussi des professeurs qui étaient normaux, peut-être même un peu mauvais. Mais ce n'était pas important, parce que pour moi, ce qui était important, c'est que j'avais des profs, point barre.
Tu sais que je te pose cette question parce que j'ai eu des conversations avec différentes personnes.
Ouais.
Qui me disaient que selon la personne qu'ils avaient en face, selon la passion du prof, son talent ou non de transmettre sa passion pour la matière, ça pouvait impacter en fait leur capacité d'écoute et leur intérêt pour la matière en elle-même.
Oui.
Donc en fait, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que tu penses que dans ta situation, du coup, c'est un trait de caractère personnel, donc une curiosité ou quelque chose que tu as identifié qui a fait qu'en fait, même si le prof était potentiellement mauvais, tu étais toujours motivée à apprendre.
Oui, en fait, je pense que moi, j'ai eu les deux. J'ai eu un professeur, par exemple, mon prof de maths P, Il était tellement passionné, en fait, il était tellement bon à me montrer, à nous montrer, me montrer la magie en fait des mathématiques, que ça m'a fait changer ma décision de quoi faire après le bac. Donc lui, pour le coup, objectivement, je pense, non, il était très bon. Mais après, effectivement, j'avais d'autres professeurs qui, peu importe leur méthodologie, peu importe. En fait, moi, déjà, en fait, j'avais cette soif d'apprendre, j'avais cette soif de m'améliorer dans cette matière. Et je savais qu'ils avaient l'info.
Oui.
Donc, j'attendais pas forcément qu'ils me donnent des choses, j'allais chercher. Oui. Tu vois? Oui, mais moi, je veux comprendre ça, mais voilà.
Et pour les personnes qui sont pas comme toi, des personnes qui ont toujours pas identifié les matières qu'ils aiment ou qu'elles aiment le plus, quelles questions ces personnes devraient se poser ? Est-ce que tu penses qu'on a toutes et tous une soif d'apprendre ? Est-ce qu'on peut les aider à développer une soif d'apprendre ?
Je pense qu'on peut aider à révéler une certaine soif d'apprendre. Je pense que tout le monde a une soif d'apprendre, personnellement. Mais pas forcément pour les mêmes choses. Donc moi, dans mon cas, ma soif d'apprendre... par je ne sais quel mécanisme, elle était... Enfin, si, en réalité, je sais quel mécanisme, mais... Moi, ma soif d'apprendre, elle était, je pense, accidentelle. Elle était liée à des matières qui sont actuellement... ou à l'époque et actuellement, je sais pas si c'est toujours le cas, dites, voilà, prestigieuses ou voilà. Mais j'avais aussi des amis qui, leur soif d'apprendre, elle était en histoire de l'art, par exemple. Mais ça, c'est pas forcément encouragé, c'est pas forcément... Il n'y a pas forcément d'opportunité de révéler ça. D'accord ? Donc, moi, je pense que tout le monde a une soif d'apprendre. Mais il faut l'espace de la découvrir. Et parfois, on a soif d'apprendre de quelque chose qu'on trouve difficile. Par exemple, on peut avoir soif d'apprendre des maths, mais en fait, on a du mal à faire des maths. Du coup, on a l'impression que bah, ça ne sert à rien, autant que j'abandonne, que je laisse tomber, ce n'est pas mon truc. Les autres, là, regarde, ils ont 18 et 20 en faisant rien, alors que moi, je galère. Donc, moi, je pense qu'il faut encourager... Il faut encourager cette curiosité. L'une des manières qui pourrait être utilisée, c'est de se demander s'il n'y avait pas de notes, si j'allais jamais être notée sur des matières, qu'est-ce que je prendrais le plus de plaisir à étudier ?
Très, très bonne question. Je t'invite à y répondre. Je t'invite à prendre le temps d'y réfléchir. Merci, Loubna. Et ça m'amène en fait à ma dernière question sur ce sujet-là. Quel conseil donnerais-tu à un élève tout à fait exactement qui ressemblerait à l'alumna d'avant et quelqu'un qui serait totalement à l'opposé ?
Ok, alors des élèves comme Loubna, je dirais le fait que les choses te semblent faciles actuellement, ne prends pas ça pour acquis. Pour moi, c'était la chose à laquelle il fallait que je me prépare pour mes études après le bac, le plus, voilà. Donc, ne prends pas pour acquis le fait que t'as pas trop de mal, voilà. T'as beaucoup de choses qui facilitent ça. T'as le fait que, moi, par exemple, je suis venue du Maroc quand j'étais enfant. Et quand j'étais au Maroc, j'étais dans une école où, comme beaucoup d'écoles marocaines en réalité, où... le niveau, il était plus élevé, en fait, qu'en France. C'est-à-dire que je suis déjà venue avec de l'avance. Et en fait, j'ai toujours, en fait, eu un peu d'avance. Mes deux parents étaient à l'université, donc ils étaient capables de m'aider avec mes devoirs. Ma maman, elle était à la maison, donc si je galérais avec mes devoirs, elle pouvait m'aider, etc. Mes parents m'ont beaucoup encouragée à faire un tout petit peu plus, travailler un petit peu plus, un exercice en plus, voilà. Donc voilà, donc toutes ces choses ont fait que mes études, enfin mon collège et mon lycée étaient pour moi faciles, contrairement à mes études après le bac. Après, c'est ce que je dirais à des gens qui ne sont pas du tout comme moi. Donc, on peut prendre l'opposé, par exemple. On peut prendre les gens qui étaient de l'autre côté du spectre. Par exemple, j'avais des gens dans ma classe qui, à l'époque, qui faisaient n'importe quoi en classe. Ce que je dirais, c'est que même s'ils ont l'impression que ça ne sert à rien, que de toute façon, ils n'arriveront jamais à rattraper les autres ou que c'est trop dur, de toute façon, eux, ils ne sont pas faits pour ça, etc. Peut-être que c'est vrai qu'ils ne sont pas faits pour certaines méthodes, mais il y a énormément de choses pour lesquelles ils sont faits. Et le plus tôt ils découvrent ça, le plus tôt ils se donnent l'opportunité et la chance de découvrir ça, plus ils vont être satisfaits et d'eux-mêmes. Donc vraiment, c'est comme apprendre un peu à faire du vélo. La meilleure analogie, je pense, c'est de voir tout le monde faire du vélo. Tout le monde a appris à faire du vélo et ils font du vélo ensemble et ça arrive et tout. Mais moi, j'y arrive pas. En vrai, j'ai pas envie. Et se dire, en fait, bah, tout le monde fait du vélo. Il y a que du vélo. Moi, je veux pas te faire de vélo. Du coup, je vais rester sur le banc. Je m'en fous, ça sert à rien. Mais en réalité, tu peux faire du roller. Ou tu peux faire du skate. Et personne t'a dit. Mais si... Mais ça existe, donc il faut se donner la chance de trouver le roller et le skate et se dire, bon, moi, je ne fais pas du vélo, mais en vrai, j'aime trop le skate. Et ça, je suis pas mal. Et ça, j'avais beaucoup d'amis, enfin, c'était des gens qui étaient avec moi au collège, par exemple, et au début lycée, et après, à la fin du lycée, ils ont découvert ça. Ça leur a pris un peu plus de temps que les autres, mais ils ont fini par découvrir le truc qui faisait que ah mais j'aime trop, et ils sont, et pour moi c'était des profils incroyablement inspirants parce qu'en fait ils sont passés de 0 à 100. Ils étaient tellement passionnés, en fait ils se sont donnés, et aujourd'hui c'est des gens qui sont voilà, excellents dans leur métier et très heureux, je pense.
C'est une très belle explication, merci Lumna. Et on est consciente que c'est difficile d'identifier ces rollers, ce skateboard et autres. Mais en tout cas, on vous invite à commencer à chercher. Et là, Lumna, est-ce que tu as des conseils ? Est-ce que si aujourd'hui, tu devais être devant 30 collégiens, lycéens, qu'est-ce que tu leur dirais ?
Si vous savez ce que vous voulez faire, c'est très bien. Si vous ne savez pas ce que vous voulez faire, c'est très bien. Mais essayez chaque année qui passe, de vous donner un maximum. Ne vous dites pas de toute façon, je me donnerai pour le brevet ou de toute façon, je me donnerai pour le bac. Parce qu'en réalité, on accumule des lacunes année après année. Même quand on se donne un maximum, on ne comprend pas 100% de nos cours et de nos trucs une année après l'autre. Donc, chaque année, voilà, peut-être la première année, on comprend 98%. Puis l'année d'après, on comprend 90%, etc. Et plus on augmente, plus ça devient difficile. Et voilà, et moins on assimile complètement. Donc, pour ne pas être submergé et pour se donner les meilleures chances, il faut essayer de faire le maximum. Chaque année, il faut essayer de faire le maximum. Et si on n'arrive pas voilà, au maximum qu'on espérait, ce n'est pas grave. Et c'est ce que je disais au début quand tu me demandais par rapport à la définition du succès. Pour moi, c'est ça. C'est pousser là, par exemple, je suis à ma limite du confort. Je vais un tout petit peu au-delà. Et après, je suis en paix avec le résultat. Voilà. Et s'il y a une vision, moi, je veux être médecin, moi, je veux être, je sais pas, moi, gendarme, moi, je veux être ça. Ben, faut y aller, il faut... C'est très bien. Et si vous changez d'avis chaque année, c'est aussi très bien. Et si chaque année, vous n'avez aucune idée, c'est aussi très bien. C'est des années où c'est pas, pour moi, ce n'est pas grave si on ne sait pas vraiment où on va. Et puis, si on sait qu'on change d'avis, c'est aussi pas grave. Mais il faut se donner. Et on sait qu'on se donne quand on dépasse un tout petit peu notre niveau de confort. Quand ça devient un peu relou, genre flemme.
Je pense que j'aurais pas pu me dire. En fait, sortir de sa zone de confort, en fait, c'est tout au long de ta vie.
Oui.
C'est tout au long de ta vie, sur tellement d'éléments. C'est... Enfin, on en parlera plus tard, mais on sait même pas ce qui nous attend. On sait pas ce qui nous attend, donc forcément, ça va être inconfortable. Donc, si tu commences progressivement à suivre les conseils de Lubna, tu pourras mieux avancer. Ok, donc là, tu obtiens ton bac, tu as une mention.
Ouais.
Tu es incroyablement fan des maths. Et tu te dis...
Ouais.
Ok, laisse-moi reparler alors.
Non. Okay. Je suis fan des maths, mais les maths sont pas fans de moi. Ça, je le découvre.
Ok. Du coup, on arrive à l'obtention de ton bac. Tu te situes où ? Tu fais quoi ? Tu décides de faire quoi ?
Alors,
est-ce que tu es sûre de ce que tu veux faire ?
Oui. Voilà, c'est la réponse.
Et merci.
Et voilà. Oui, je suis sûre. Je suis en prépa MPSI. Je suis dans une bonne prépa. Je sais que je veux faire une MPSI. Donc, c'est maths, physique et sciences de l'ingénierie. Et en fait, voilà, je veux être classée parmi les premières pour ensuite intégrer une MP étoile. Donc, la deuxième année de prépa où, en fait, parce que les meilleurs de l'année précédente sont dans la même classe. Et en fait, ils ont des cours un peu plus intenses, des examens un peu plus intenses qui font qu'ils sont mieux préparés pour les concours nationaux. Et c'est plus probable pour eux d'avoir des très grandes écoles comme l'ENS, Polytechnique, Centrale et tout ça. Donc ça, c'était ma vision. Et c'est ce que beaucoup appellent la voie royale. Donc je savais exactement ce que je voulais faire. Quand j'ai intégré la prépa, c'est extrêmement intense à la prépa. Donc on a 12 heures de maths, 10 heures de physique. Enfin, c'est non-stop. On a des heures d'école aussi, donc voilà, je savais ce que je voulais faire. Les seuls cours que j'appréciais, c'était les cours de maths, mais encore une fois, c'était très intense et j'avais beaucoup de mal à suivre. Je vivais pas à côté de la prépa également, donc en fait, il y a eu le temps d'y aller et mon papa, à l'époque, prenait du temps de son travail pour me déposer et tout. C'était compliqué parce qu'au final, et ça, c'est le cas pour beaucoup de gens en prépa, c'est qu'en fait, ils étudient dehors. Je pense que c'est la même chose pour les gens en médecine, etc. Donc voilà, donc ça, c'est ce que j'ai fait initialement, juste après le bac. Mais ça n'a pas duré plus de 6 mois.
Ok. J'ai une première question avant de te demander pourquoi ça n'a pas duré plus de 6 mois.
Ouais.
Est-ce qu'avant de te lancer, tu avais échangé avec des profs ou toute autre personne pour confirmer ou non que c'était la bonne voie pour toi ?
Alors, oui. Donc, moi, je me souviens qu'en première et en terminale, il me semble, d'anciens élèves de mon lycée, qui étaient actuellement en prépa, sont venus nous parler de la prépa. Il y en avait plusieurs qui étaient en MPSI, PCSI aussi pour ceux qui font physique. Donc, ils sont venus pour les terminales S, parler des prépas et commencer et tout. On pouvait leur poser des questions. Et je me rends compte qu'en fait, je viens de donner la même description que eux, ils m'avaient donnée en terminale. Ce qui est insuffisante en réalité. Parce que moi, je pense que ce qu'il faut dire aussi par rapport à la prépa, c'est que c'est un milieu extrêmement compétitif. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir de bonnes notes, il faut aimer la compétition. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui adorent les matières qu'ils étudient, qui sont très très bons, qui ont de très bonnes notes. Mais ils sont très perturbés ou démotivés par la compétition. Donc ça pour moi, ça doit faire partie de la liste comme des bonnes notes. Sauf que personne ne nous l'a dit. Donc on savait que c'était intense, on savait que c'était difficile. les professeurs, mes professeurs en terminale me disaient ça, voilà, c'est... Mais tout le monde me disait, t'as de bonnes notes, donc ça devrait le faire. Ça va bien se passer. Parce que c'est la même chose que tu fais depuis très longtemps, juste faut pousser un peu plus. Mais la réalité pour moi, c'était que le milieu, donc le milieu et la manière de classer les gens à chaque examen, cette idée des concours, de comparer tout le monde à tout le monde, pour moi, c'était destructeur. C'était vraiment destructeur. Donc, le fait que j'ai de bonnes notes et que je puisse travailler longtemps, ça n'a pas changé grand-chose.
Et est-ce que tu penses que c'était spécifique à la prépa que tu as fait? Ou en fait, c'est des échos que tu as eus de plusieurs personnes qui ne faisaient pas forcément la même prépa que toi?
Non, c'est réel dans toutes les prépas. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est vrai dans toutes les prépas. À cause de la nature des concours, en fait. Les concours qui se passent après 2 voire 3 ans de prépa, ce sont des concours nationaux. Donc, tu es classé par rapport au reste de la France. Et ça, c'est littéralement du premier jour de ta prépa jusqu'au dernier jour. C'est ce pourquoi tu étudies, en réalité. Donc, on te met ça en tête dès le début. Je pense, par contre, que plus la prépa est prestigieuse, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle a un plus grand nombre d'élèves qui intègrent les meilleures écoles françaises, plus la compétition est aiguë. Et en fait, effectivement, plus, mieux sont les élèves. Donc, les deux sont... Donc, je pense, effectivement, peut-être qu'il y a des prépas... Moi, je parle de la prépa MPSI. Je sais que les prépas littéraires, c'est parfois encore plus compétitif parce qu'ils ont moins d'options, en fait, tout simplement. Ils ont moins d'écoles qui peuvent intégrer après les concours. Je pense que nous, en maths, physique, ça va. Enfin, on a plus de choix, même si les top 10, en fait, sont très difficiles à obtenir. Donc non, je pense que c'est le cas. Je pense qu'en fait, le système de prépa est construit autour de la compétition.
Merci, Loubna. Et est-ce que maintenant, tu peux nous dire pourquoi tu n'es pas restée plus de 6 mois en prépa?
En vrai, ça m'émeut tellement de parler de la prépa parce que c'était une période bouleversante, vraiment bouleversante. Parce qu'en fait, j'ai fait ce que mes professeurs m'ont dit de faire. J'étais la bonne élève, j'ai fait ce qu'il fallait. Chaque année, je faisais... voilà. En gros, j'avais le profil entre guillemets idéal et ça ne m'a pas empêché en prépa de complètement, totalement échouer. Et ça n'avait rien à voir avec mes notes. Enfin, ça a impacté mes notes évidemment en prépa, mais ce n'est pas parce que je n'ai pas assez fait. Et c'est là où j'en reviens à l'analogie avec les vélos et les skates en fait. J'ai voulu forcer quelque chose qui n'était pas... c'était juste pas fait pour moi. Comment moi, mon cerveau, il fonctionne et qu'est-ce qui me motive. Et d'ailleurs, il y avait plusieurs personnes qui étaient dans la même situation que moi.
Okay. Entendu. Et du coup, tu veux nous expliquer ce qui s'est passé?
Oui. Alors, pour la faire courte et sans rentrer dans des détails privés, je suis tombée malade. Donc, en fait... à cause du stress, à cause du rythme, à cause de plein de choses, ça a fini par me rendre malade. Et donc, il arrivait un moment où je ne pouvais physiquement plus me lever de mon lit pour aller étudier. Donc, j'ai été forcée d'arrêter. Ce n'était pas quelque chose que... Je ne voulais pas arrêter en réalité. Moi, j'avais... La rage de pousser et continuer encore plus fort, encore plus loin. Mais mon corps, et c'est important de s'écouter, en fait, c'est important de prendre soin de sa santé, a dit « Stop, je t'en mords ». Et voilà, donc j'ai été obligée de prendre une longue pause, ce qui était très difficile. Mentalement, c'était compliqué.
Ouais, j'imagine. Merci Loubna d'avoir partagé ça avec nous. Après ces 6 mois, puis la pause, t'es dans quel état d'esprit?
Alors, après ces 6 mois en prépa, qui était un total échec, et cette pause, mon état d'esprit, c'était « il faut que je me rattrape ». J'avais dans ma tête, je me suis dit « oh non, ça fait, j'ai déjà perdu un an ». si j'ai perdu ma première année maintenant, qu'est-ce que je fais, comment je... Même si j'avais mes professeurs de prépa qui me rassuraient, qui me disaient « Écoute, tu peux faire plein de choses » et ils proposaient des solutions, etc. Eux, ils n'étaient pas paniqués comme moi, j'étais paniquée. Mais moi, dans ma tête, j'étais complètement paniquée. Donc ça, c'était l'état d'esprit dans lequel j'étais, qui est différent de mon état d'esprit maintenant. Ouais, du coup, voilà, c'était ça. Je me disais, en fait, il faut que tu te rattrapes. J'avais cette idée qu'il fallait que je me rattrape. Que j'étais en retard, que tu vois, le train il est passé et que en fait il fallait que je cours derrière là parce que en fait j'ai raté mon arrêt.
Ok. Et en fait, là, du coup, tu as un écosystème. Du coup, tu as tes parents, tu as tes anciens profs de prépa qui te guident,
ouais,
qui te soutiennent.
Ouais.
Quelle direction tu prends?
Du coup, moi, ce qui s'est passé après ma prépa, c'est que je voulais pas juste rien faire. Donc, brièvement, pendant qu'en fait je me soignais, je me suis inscrite dans une école post-bac d'Angers. Et voilà, en gros, j'allais passer des examens et en même temps, je prenais des pauses pour moi. Et ça, ça a été un peu mon petit truc intermédiaire. Mais mon idée, c'était de réellement me réorienter, aller mieux et ensuite... consciemment choisir quelque chose de différent de la prépa dont je suis fière, quelque chose qui me plaît. Et je me souviens qu'à cette époque-là, mes parents étaient très inquiets. Et je me rappelle d'un moment que vraiment que Dieu préserve mon papa. Mon papa était avec moi au téléphone et il savait que j'étais passionnée de cinéma, en fait. Je suis toujours passionnée de cinéma. Il m'a dit, si tu veux, on peut t'inscrire dans une école de cinéma. Et ça, ouais, mais ça m'a fondu le cœur parce qu'en fait, j'avais construit ma vie autour de bien étudier pour ouvrir des portes et tout. Et pour moi, faire des études de cinéma, c'est vraiment quelque chose que c'est pour les gens qui ont le luxe, entre guillemets, de choisir leur passion plutôt que le truc qui va, c'est sûr, ça va te donner un job et ça va être facile. Donc voilà, donc en gros j'étais dans une optique de ok, qu'est-ce que je veux vraiment faire là, la prépa ça a pas marché, qu'est-ce que je veux faire? Et la réponse c'était je veux faire des maths, je veux pas être ingénieur, je veux faire des maths.
Okay. J'ai plusieurs questions. Déjà, merci d'avoir été hyper hyper transparente sur ton expérience et d'avoir donné des conseils incroyablement précieux. Du coup, tu mentionnais que tu cherchais quelque chose dont tu voulais être fière. Comment tu définis la fierté?
À l'époque, je ne vais pas te mentir, la fierté, c'était ce qui rendait mes parents fiers. Pour moi, la fierté, c'est... J'imagine Loubna idéale, entre guillemets, qui n'existera jamais. Mais je fais un truc qui me rapproche d'elle quand même. Donc, par exemple, j'imagine que Loubna, idéale, par exemple, c'est une peintre connue dans le monde entier. Ses peintures sont dans les plus grands musées. Bah, ça n'arrivera jamais.
On sait jamais.
On sait jamais. Ça n'arrivera jamais. Mais ça me rend fière de prendre des cours de peinture. Parce que c'est un pas en plus vers cette version idéale. Pour moi, c'est ça la fierté. C'est juste faire un pas en plus vers la version idéale de toi-même.
Okay. Très belle définition. Merci. Et Loubna peint en parallèle. Hein, donc... Tu disais que tu ne pouvais pas avoir le luxe de choisir ta passion. Est-ce que tu penses quand même que c'est possible de garder sa passion tout en choisissant une trajectoire pragmatique?
Oui, et c'est ce que j'ai fait. Donc moi, à côté de... J'étais vraiment... je suis toujours très passionnée. Je suis une grande amoureuse du cinéma. Et ce que je faisais en dehors de l'école, j'avais un blog cinéma, par exemple. J'écrivais des articles. Tout le monde s'en foutait. Personne ne le lisait. Mais moi, ça me faisait plaisir de voir des films et d'écrire des articles dessus. Donner mon opinion que personne n'a demandé. Voilà, j'avais acheté une caméra pour essayer de faire des petits courts-métrages de mes amis. Voilà. Donc, c'est complètement possible. Et moi, je pense d'ailleurs que c'est peut-être même la meilleure manière, pour moi en tout cas, c'était la meilleure manière de préserver ma passion. Je pense que si j'avais fait une école de cinéma, effectivement, et que c'était devenu un truc qui avait des examens à la fin, et je pense que ça aurait été des trucs moins marrants.
Ouais, la pression, du coup, de l'évaluation.
Voilà. Donc, pour moi, c'était possible, et c'était surtout... Voilà. Et c'était aussi un échappatoire. Ça me permettait de faire des pauses, de vivre, en fait, en dehors de mes cours.
Okay.
Donc, oui, je pense totalement possible.
Très bien. Et ça m'amène à ma dernière question sur ces sujets-là.
Donc, tu décides de diriger vers un parcours universitaire. Donc là, tu es dans une situation où tu commences à postuler un peu partout.
En vrai, j'ai juste postulé à une seule université. C'était l'Université Paris-Dauphine.
Mm-hmm.
La raison pour laquelle je l'avais choisie, c'est parce que je sais qu'ils avaient un très bon programme en maths. Enfin, voilà. Et un bon cursus en maths. Et aussi parce qu'en fait, ils prenaient en milieu de parcours comme ça. J'avais pas besoin de recommencer depuis le début.
Ok.
Du coup, ils prenaient les gens qui avaient fait prépa avant. Et voilà. Et du coup, j'ai postulé. Et les admissions sont très, 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 très faibles en milieu de parcours comme ça. Je pense qu'on était 20 à avoir été admis sur je sais pas combien de candidats. Mais du coup, j'ai directement intégré en L2.
Ok.
Deuxième année de licence.
Très bien.
De mathématiques.
Et tu sais pourquoi tu as fait partie de ces 20 ou pas ?
Aucune idée.
Est-ce qu'il y avait une lettre de motivation à faire ? Est-ce qu'il y avait... Enfin, du coup, c'était ton dossier, DEC ?
En fait, j'ai rangé et ramassé toutes mes notes, tous les trucs que j'avais, des lettres de recommandation aussi, de mes profs. Ça aussi, ça, je recommande. S'il y a des profs voilà, qui... ça s'est bien passé, qui vous ont encouragé ou tout, c'est bien d'avoir des lettres de recommandation. Évidemment, avoir de bonnes notes, ça aide. Pas besoin d'avoir des bonnes notes partout. Donc, même si ce n'est pas parfait, il faut toujours quand même tenter et postuler. Mais ouais, je me souviens que... parce que j'avais fait le forum des étudiants plus tard, quand les années sont passées, j'avais plein de parents qui venaient. Oui, je veux que mon enfant il fasse Dauphine. Comment, vous savez quelle note en maths vous avez... Et je n'arrivais pas à leur expliquer qu'en fait, mon parcours était chaotique. En fait, je ne peux pas... En fait, c'est pas... Ça peut pas facilement se répéter. Et que la seule chose que je pouvais leur dire, c'était qu'il tente, il n'a rien à perdre. Genre juste qu'il tente, qu'il se donne son max, c'est-à-dire un peu plus que ce qui est facile. Et ensuite, il postule, et voilà, il ou elle, évidemment. Et voilà, et ensuite, le reste, c'est pas vraiment, on ne peut pas contrôler, quoi.
Ouais, c'est clair. Ok. Et là, tu rejoins Dauphine, donc en deuxième année de licence. Comment ça se passe ?
Eh ben, c'est terrible. C'est terrible. Évidemment, je suis aux anges. Je suis très contente. Je suis très heureuse. J'ai l'impression d'être trop chanceuse. En fait, on est 20 en plus. Ça, c'est merveilleux. Mais ça se passe très difficile. En fait, c'est limite plus compliqué que la prépa. C'est différent, évidemment, parce que j'ai plus les à la physique. J'ai plus les sciences de l'ingénieur. En fait, j'ai que des maths. Littéralement, je fais que des maths. J'ai peut-être un autre cours qui est l'anglais et un autre cours qui est la macroéconomie, microéconomie, où je suis encore pire qu'en maths. Donc, la seule matière, c'était l'anglais, où ça va, c'était un peu pas, c'était pas horriblement difficile, mais tout était très difficile. C'était tellement dur, mais c'était tellement dur pour nous tous. Et je me souviens très bien qu'en fait, je me suis à ce moment-là. Grande panique dans ma tête. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait ? En fait, je suis passée d'un truc difficile à un autre truc difficile. Et encore une fois, en fait, sortir de sa zone de confort pour aller vers l'idéal et tout, ça peut être dégueulasse. En fait, ça peut faire très mal, ça peut être très compliqué, plein de doutes. Mais encore une fois, c'est comme être au milieu de l'océan. Donc, soit tu t'arrêtes de bouger et tu te noies, où tu continues de nager, en fait, il va falloir continuer de nager. Donc, c'était très difficile. Donc, je me prenais des notes catastrophiques. Mais il faut continuer. Il faut continuer. Et voilà, et en fait, c'était un peu comme ça jusqu'à la fin.
tu t'es accrochée.
Oui, parce que j'avais pas le choix. J'avais pas le choix.
Est-ce que tu penses que t'avais vraiment pas le choix?
Bah, je me suis pas donné le choix. Je savais que c'était ce que je voulais faire. Je savais qu'il m'avait accepté, donc en théorie, je peux y arriver.
Mm-hmm.
L'autre truc qui me motivait et également, c'était que tout le monde galérait.
Ok.
Et en fait, ça, c'est un truc spécial en mathématiques, c'est que même il y a pas une seule personne qui a fait des maths qui a pas galéré. On a juste différents niveaux de galère. Voilà, c'est comme quand tu joues à Mario Bros. Parfois, les gens, ils galèrent au niveau 2. Toi, t'es bien au niveau 36. Bah, là, c'est la même chose. Donc, tout le monde, peu importe ton génie, il arrive un moment où tu galères. Donc je galérais. Tout le monde galérait. Mais c'était alarmant pour personne. C'est normal qu'on galère. Donc, on essayait de continuer.
Très bien. Donc, en fait, tu dirais que pendant tes années à l'université, il y avait une forte camaraderie qui t'a permis de continuer d'avancer malgré les difficultés.
Oui.
Est-ce que tu penses que tu aurais pu te motiver toute seule ou tu avais besoin de voir que vous étiez tous et toutes dans le même bateau?
Je pense que si j'étais toute seule à galérer comme ça, je pense que, et que les autres, en fait, ça se passait bien, je pense que je me serais posé la question de est-ce que c'est vraiment ce qui me plaît? Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Que vu qu'en fait on était tous dans cette difficulté et que moi je savais en fait, puis j'aimais les maths, mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'en fait les maths ils m'aimaient pas en retour, c'est parce qu'en fait j'avais pas de bonnes notes, en tout cas après le bac c'était compliqué d'avoir de bonnes notes, mais après je me suis rendu compte que c'était le cas pour tout le monde.
Qu'est-ce que t'entends par pas de bonnes notes?
Tu veux que je te donne des...
Non mais est-ce que c'était vraiment pas de bonnes notes comparé à des années lycée?
Non, c'était non, t'as pas la moyenne en fait.
Ok.
Nous, on avait des examens où la moyenne de l'amphithéâtre entier, elle était de 7.
Ok.
7 sur 20. Et c'est drôle parce que notre prof nous disait, notre prof de maths, hein, nous disait oui, la moyenne, elle est de 7. Il était en mode, bah, c'est pas normal. Et moi, parfois, je me disais, mais t'es prof de maths? Si la moyenne de ton amphi, elle est de 7, le problème, c'est toi, c'est pas nous. Mais bon, on n'avait pas cette autorité, malheureusement. Donc, il fallait qu'on se débrouille quand même. Donc, c'était très difficile. C'était connu pour être très difficile.
Ok. Et j'ai une deuxième question.
Ouais.
Merci pour la transparence, pour la note.
Ouais.
Tu disais que... Si tu étais la seule à galérer, que tu te serais posé la question de « est-ce que ça me plaît? Est-ce que j'aurais dû faire ça ?» Mais est-ce que tu penses que l'alumna d'aujourd'hui se poserait cette même question?
Non, c'est toujours ce que je pense aujourd'hui. En fait, la raison pour laquelle c'est la question que je me pose, c'est parce que le fait que quelqu'un soit le seul ou la seule à galérer, c'est naturel pour la personne de se dire « purée, je suis trop nulle, en fait. Le problème, c'est moi. » Mais pour moi, le fait d'être le seul ou la seule à galérer, c'est pas une raison de changer ou d'arrêter. C'est pas une raison. Peut-être que c'est plus difficile pour toi, c'est pas grave. Là, pour moi, la question importante à se poser, c'est est-ce que c'est assez important pour toi de galérer 3 fois plus que les autres? Si la réponse est oui, allez, on galère, c'est pas grave, on continue, on va y arriver. Et ça, je le sais, par exemple, je sais que j'ai beaucoup d'amis, par exemple, qui ont fait médecine, qui ont échoué 2-3 fois plus que les autres. Mais ils sont médecins aujourd'hui. Bon, ça leur a pris plus de temps, mais le truc qui les motivait à rester, c'était de se dire, en fait, c'est exactement ce que je veux faire. Je n'ai aucun doute sur le fait que voilà, c'est pas grave si on galère plus que les autres. C'est pas grave si on est le seul ou la seule à galérer plus que les autres. Ce qui est grave, c'est galérer et pas vouloir vraiment faire le truc pour lequel on galère.
Ok. C'est un très bon point. On n'est jamais sûr de ce qu'on veut faire dans la vie.
Non.
Du coup, comment tu te rassures? Comment tu fais pour puiser en fait cette force?
Si on n'est pas sûr, bah alors pour moi la première question c'est est-ce que t'es pas sûr de savoir pour quelle période de temps. Si aujourd'hui, je ne sais pas ce que je veux faire cette année, C'est différent de se dire, je ne sais pas ce que je veux faire pour le restant de mes jours. Si tu ne sais pas, après le bac, alors que tu es au collège ou même au lycée, bon, c'est pas, pour moi, ce n'est pas trop grave. Tu as le temps, tu vois. Si tu ne sais pas plus tard, il faut réduire la période de temps. Bon, je ne sais pas ce que je veux faire pour les 5 prochaines années. Est-ce que je sais ce que je veux faire pour cette année? Je ne sais pas ce que je veux faire pour cette année. Est-ce que je sais pour les 6 prochains mois? Si je ne sais pas ce que je veux faire la semaine prochaine, je ne sais pas si j'ai un bon conseil pour ça. Pour moi, si on est là, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire. Pour moi, peut-être que ça serait intéressant d'essayer de se poser un peu la même question que j'ai dit tout à l'heure. S'il n'y avait pas de notes, quelle matière, là, ça serait pareil. S'il n'y avait pas tes parents, s'il n'y avait pas les questions d'argent, s'il n'y avait pas les questions de... Voilà, tous ces facteurs extérieurs, où est-ce que tu serais? Là, tout de suite, tu ferais quoi? Il faut répondre à cette question honnêtement. Il ne faut pas répondre genre, je serais aux Bahamas.
On le serait tous.
Parce que ouais, on le serait tous. Et répondre sincèrement à la question en mode... par exemple, il y a des gens qui étaient, par exemple, en prépa MPSI, diraient, ben, moi, je serais en train d'écrire un livre. Je serais en train d'écrire un roman.
Et si tu devais nous en dire un peu plus sur ta licence et ton expérience?
Mais un petit truc à savoir sur ma licence. Alors, j'ai galéré pour arriver à la fin de la licence.
D'accord.
Donc, j'ai raté 2 semestres. Donc, j'ai raté un semestre. En réalité, c'était tellement violent pour mon estime de moi qu'en fait, je pense que j'ai un peu oublié les détails. Mais il me semble que j'avais raté un semestre en L2. J'ai raté un semestre en L3. À Dauphine, on a cette possibilité de faire, par exemple, L2, L3 en même temps.
Okay.
Donc, si tu as raté un semestre, tu peux faire le prochain semestre de L3 et tu rattrapes le deuxième semestre de L2, par exemple. Donc, moi, j'étais un peu dans cette situation et extrêmement difficile pour moi mentalement, encore une fois, parce que je suis arrivée à Dauphine, je me suis dit, j'ai laissé un train passer. Là, je me suis dit, les trains, il y en a beaucoup qui sont passés. Et maintenant, j'y repense, j'ai 28 ans, je me dis, franchement, pauvre Lubna, elle avait l'impression de porter l'avenir de l'univers sur ses épaules à 21 ans. Alors qu'en vrai, mais c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Mais j'avais l'impression, encore une fois, j'étais en train de courir derrière le TGV. C'était terrible. Donc, le moment où j'ai fini ma licence et j'ai eu ma licence, je l'ai eu ric-rac d'ailleurs. Donc, on est allé de loin. Hein. C'est-à-dire que Lubna était là, terminale S avec les notes super et tout, des 18, des machins, à prier pour avoir un 10 en licence. Donc, mon humilité, elle a grandi. Mes notes ont chuté, mais c'était le gain. Et quand j'ai eu ma licence, c'était le plus beau jour de ma vie, je pense. Sans mentir. J'ai dansé. J'étais tellement heureuse. Parce que c'était tellement un chaos, en fait, pour arriver à ça. C'est-à-dire arriver à un diplôme dont je suis fière. Ouais, c'était le plus beau jour de ma vie. Et je m'en souviendrai toujours. J'étais trop contente. Trop heureuse.
Je m'étonne.
Merci. Et du coup, mon Erasmus, c'était l'année d'après en M1 parce que je me suis dit, il me faut un break.
Et ok, pour en revenir sur... en fait, là, on arrive sur la fin de ta licence, joie ultime.
Oui.
Est-ce que tu as des regrets? Est-ce que tu aurais fait les choses différemment? Et qu'est-ce que tu dirais à Lubna?
Alors, est-ce que j'aurais fait les choses différemment? Non. Parce que moi, j'avais cette mentalité que j'ai toujours, je pense. Tu vises le plus haut possible et ensuite, tu calibres en fonction. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai visé le plus haut que je pouvais. Enfin, le plus haut qui me semblait à l'époque, c'est-à-dire cette prépa et tout. Et ce n'était pas fait pour moi. Donc, j'ai changé. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que ça m'a pris plus de temps que d'autres. C'était plus difficile de plein d'autres manières. Donc, à moi, je sais que je ne regrette pas, je referai la même chose. Mais si quelqu'un, le conseil que je donnerais à quelqu'un qui ne veut pas de cette galère, qui veut en fait avoir plutôt un parcours simple, je recommanderais de choisir quelque chose qui est la personne, elle sait très bien qu'elle va pouvoir le faire. Voilà, elle va pouvoir gérer, elle va pouvoir s'en sortir. Que voilà, peut-être parfois ça va être un peu difficile, mais la majorité du temps ça va bien se passer. Et ça, par exemple, j'avais beaucoup d'amis qui étaient en école d'ingénieurs post-bac qui ont complètement adoré leur expérience parce que ça se passait bien année après année. Puis ils ont pu aller à l'étranger, ils ont pu faire des stages, donc c'était une bonne expérience pour eux. Voilà. Pendant que moi je galérais.
Mais est-ce que tu penses que ça t'a quand même forgé d'une manière ou d'une autre ?
Oui, ça m'a. Moi, je pense que j'en avais besoin parce que j'avais besoin d'apprendre à me détacher de cette vision idéaliste française de l'école. Voilà. Donc, je pense que j'en avais vraiment besoin parce que c'était beaucoup trop important pour moi et j'avais besoin d'échouer comme ça de manière répétitive pour m'en détacher.
Donc finalement, c'est pas un échec, c'est un apprentissage.
Encore plus qu'un apprentissage, c'était une opportunité.
Okay.
Parce que ça m'a ouvert des portes qui n'auraient pas été ouvertes si tout s'était bien passé.
Effectivement. Et juste après, du coup, pour ton master, en première année de master, finalement, tu décides de partir à l'étranger. Est-ce que c'est quelque chose qu'on t'avait conseillé ou c'est un truc que tu voulais vraiment, vraiment faire ?
Alors non, c'est quelque chose qu'on me déconseillait dans mon master spécifiquement, dans mon université à l'époque. Mes professeurs nous déconseillaient d'aller à l'étranger.
Pourquoi ?
Juste parce qu'en fait, encore une fois, le niveau qu'on avait d'études en maths à Dauphine à cette époque-là, pour beaucoup de, pas tous, hein, mais pour beaucoup de mes professeurs, il était beaucoup plus élevé que dans nos universités partenaires. Et donc, pour maintenir entre guillemets ce niveau, on me disait, bon, c'est mieux de. Enfin, vous devriez rester en gros. Après, c'était quelque chose que je voulais vraiment parce que, de un, je voulais avoir une expérience à l'étranger. Et puis, de deux, ça avait l'air plus simple à l'étranger. Du coup, je vais prendre l'opportunité, pourquoi pas. Mais encore une fois, partir à l'étranger, c'était sur une grande candidature. Et donc, candidature à Dauphine, mais aussi dans l'université partenaire. Je ne connais pas les détails, je ne sais pas exactement comment ça se passe pour les choix, mais je sais que l'un de mes échecs, du coup, j'ai eu un semestre vide, en fait, entre ma L3 et mon M1, qui m'a permis de faire un stage. Donc, en fait, j'avais à peu près 5 mois, en fait, vide. Et je me suis dit, tu sais quoi, je vais pas rester à rien faire. Donc, j'ai essayé de trouver un stage, trouver un boulot, quoi. Et parce que, en fait, j'avais ce profil un peu Frankenstein de quelqu'un qui a fait prépa, mais aussi un peu école d'ingé, mais aussi des maths. Et je faisais un peu de... Je programmais un petit peu aussi quand j'étais dans tous ces milieux-là. Il y avait quelqu'un, c'était le CEO d'une start-up à Paris qui a vu que je cherchais un stage et il m'a envoyé un message sur LinkedIn en disant que voilà, il cherche un stagiaire. Et j'ai passé les entretiens. Et parce qu'en fait, j'avais cette espèce de mix très étrange de compétences, j'ai eu le stage. Donc, j'ai eu un stage en fait en licence, ce qui est très compliqué à avoir après, apparemment. Enfin, c'est des choses qui sont plus faciles pour les gens qui sont en master. Et encore, c'est compliqué maintenant dans les masters de trouver des stages. Et ça, finalement, ce stage qui a comblé en fait mon semestre d'échec a fini par aider ma candidature, pas pour mon Erasmus, mais aussi d'autres choses. L'échec a vraiment ouvert des portes, sans métaphore.
Oui, et tu as aussi pu voir en fait ce que tu apprenais en cours. Comment ça se matérialise plus ou moins dans le milieu professionnel.
En fait, ce que tu apprends en faisant des maths, c'est une manière de résoudre des problèmes. Et c'est une manière de réfléchir qui est très unique en réalité. Tout le monde ne réfléchit pas de cette manière-là. Et donc, en fait, et t'apprends à apprendre vite, t'apprends à apprendre correctement aussi. tu apprends à résoudre efficacement les problèmes, quels qu'ils soient. Et je pense que ça, ils l'ont vu. Et ils ont vu que j'étais pas nulle aussi en programmation, que j'allais apprendre, s'il fallait apprendre un autre langage de programmation, ça allait le faire. Donc, c'était super. Et puis, c'était une entreprise, c'était une start-up internationale. Donc, on parlait anglais beaucoup, plein d'autres langues, et c'était cool. Franchement, c'était, je serais très, toujours reconnaissante de qui m'ait donné ma première, en fait, expérience professionnelle dans mon milieu, entre guillemets.
Donc, après ce stage, après la validation de ta troisième année de licence, donc on va reparler de ton échange Erasmus. Tu as été sélectionnée par UCD. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette expérience?
C'était trop bien. Donc, University College Dublin, c'est l'une des grandes universités ici en Irlande. J'avais pas vraiment le choix pour mes cours. Donc, mon université Dauphine m'a dit il faut prendre ces cours pour que puisse y avoir une continuité quand tu reviens. Et c'était cool. La différence, c'était qu'ici, ils ont une culture de différentes universitaires. Donc, on avait pas mal de TD, en gros, pas mal de projets à rendre. Ce qui m'a permis d'acquérir des compétences que j'avais pas la chance d'acquérir à Dauphine, à ce stade-là de mes études, en tout cas. C'était plus simple aussi qu'à Dauphine, on va pas se mentir. Mais c'était génial, c'était vraiment super. J'ai adoré la ville. Du coup, j'y suis retournée pour y vivre. C'était vraiment trop bien.
Ok. Donc, du coup, tu conseillerais à tout le monde de faire de saisir une opportunité de partir en Erasmus?
Oui, même si ce n'est pas un pays auquel vous auriez pensé avant.
Okay. Et est-ce que tu as pu financer personnellement ou tu as pu avoir des bourses?
Non, je n'ai pas eu de bourse. J'étais un peu entre les deux. Donc, je n'ai pas payé comme une étudiante étrangère parce que j'ai grandi, je résidais en France depuis longtemps. Mais en même temps, je n'avais pas de bourse. Donc, c'était un peu entre les deux. Donc j'ai pu, en fait, grâce à mon stage, j'ai pu mettre de l'argent de côté et puis subvenir à mes besoins, en gros, en Irlande.
Et t'étais payée combien pendant ton stage?
J'étais bien payée pendant mon stage. J'étais payée, je crois, 1200 ou 1300.
What?
Ouais, j'étais bien payée.
Oh, mais trop bien.
Ouais, mais j'ai encore une fois, j'ai eu énormément de chance.
Trop bien.
Ouais.
Trop bien.
Alors, aller à l'étranger, je conseille également parce que ça permet de se défaire un petit peu des idéaux français. Voilà. Parce qu'en France, par exemple, au travail, bon, peut-être que ça a changé maintenant, mais on est très admiratif des parcours linéaires. Voilà. Voilà, t'as fait ça, puis ça, puis ça, puis t'as jamais redoublé, et puis t'as resté dans la même école toute ta vie, c'est super. Et je peux comprendre que ça soit ça soit des profils privilégiés ou que ce soit voilà, mais c'est pas des profils entre guillemets plus mixtes ou plus chaotiques sont aussi bénéfiques. Donc les deux peuvent avoir leur point positif en gros. Et en fait, partir à l'étranger, rencontrer des gens qui parfois sont beaucoup plus âgés, parfois qui ont fait un parcours complètement différent. Et en fait, ça permet de réaliser que en fait, tu peux faire plein de choses. Voilà. Donc, je conseille vraiment de partir, où que ça soit.
Ouais, c'est clair. Oui, parce que du coup, en fait, ce que tu vois, c'est que déjà, ça te rassure. Tu te dis, en fait, je ne suis pas la seule à avoir changé d'avis, à avoir bougé à droite à gauche.
Ouais.
Mais en plus de ça, tu te dis, finalement, si là où j'habite, mon profil ne correspond pas, rien ne m'empêche de partir là où ça correspond.
Exactement, exactement. Et puis tu découvres peut-être des choses que tu n'avais pas là-bas, que tu découvres là, et tu peux même les ramener de là où tu viens. C'est un...
Exactement, ouais. Exactement, ouais, carrément. Cool. Et du coup, tu retournes en France?
Oui.
Et là, tu termines tes études?
Ouais, c'est le Covid. Je retourne en France, c'est le Covid. Oh,
du coup, tu fais ta dernière année d'études oui. À distance?
Oui.
Ok, ça s'est passé comment?
Pour moi, c'était super. Enfin, c'était super parce que c'était très intense. Mmh. Donc, je suis revenue à l'intensité de Dauphine. Mais du coup, vu les conséquences, ils ont dû changer un petit peu leur manière de nous évaluer. Et là, je me suis découvert une compétence plus pour la recherche, entre guillemets. Donc, quand on me donne un problème ouvert qui potentiellement est plus compliqué qu'un examen sous contrainte de temps, en fait, je suis bien, bien meilleure. Et ça, je l'ai découvert grâce au Covid, grâce au fait qu'en fait, vu qu'on avait Internet et qu'on pouvait chercher, etc., ils devaient nous évaluer d'une manière plus différente. Donc, en fait, je me souviens qu'on nous avait donné un devoir maison qui était plus basé sur un article de recherche, en fait. Okay. Et en fait, c'était trop plaisant pour moi de travailler là-dessus. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'aime trop chercher, revenir et y penser, et revenir le lendemain. Et ça, c'était super pour moi.
Trop bien. Et du coup, tu peux juste nous rappeler le nom de ton master ?
Donc moi, j'ai fait une licence de mathématiques et applications. Et mon master, c'était juste à continuité. Donc c'était un master de mathématiques et applications. Et la spécialité, du coup, je me suis spécialisée en deuxième année de master, c'était en data science et statistique, en gros.
D'accord. Tu peux nous expliquer ce que c'est la data science ?
Oui, alors data science, ça, c'est le mot en anglais veut juste dire science des données. Donc, c'est littéralement ça. C'est-à-dire que, en fait, c'est l'étude des données. Et des données, elles peuvent être très, très vastes. Ça peut être des images, ça peut être des textes, ça peut être de l'audio. Et les sciences, en réalité, elles peuvent être très vastes également. Donc, ça peut être... Donc, nous, on fait beaucoup de prédictions. Donc, on utilise les données actuelles, donc ce qu'on sait de l'instant présent et du passé, pour pouvoir émettre des hypothèses sur le futur. Par exemple, un problème classique, c'est est-ce que tu peux prédire la météo de demain ? Donc, ça, c'est un problème de science des données. Par exemple, un autre problème classique, c'est on te donne des radios, par exemple, des radios du sein. Et on te dit, voilà, 1 million de radios du sein. On te dit, voilà, celle-ci, elle a un cancer. Cette image-là, on ne voit pas de cancer. Si je te donne une nouvelle image, est-ce que tu peux me dire la probabilité qu'il y ait un cancer ou pas ? Donc, ça peut être extrêmement vaste. C'est très, très vaste. Et c'est ce que j'aimais, d'ailleurs. C'est qu'en fait, ça peut être appliqué à plein de choses différentes. Et c'est complètement entremêlé avec les mathématiques. Donc, voilà.
C'était très, très clair. Merci, Luna.
Pour terminer sur le volet Erasmus, études, etc., quand tu vois que tes notes ne sont pas aussi bonnes qu'avant, qu'on te déconseille de partir en Erasmus, comment tu fais pour garder confiance en toi ? Comment tu te dis « je peux carrément réussir malgré tout » ?
Mais je ne l'ai pas, en fait. je ne l'ai pas. En fait, tout au long du chemin, je suis pleine de doutes. D'ailleurs, un truc que je n'ai pas dit, c'est qu'entre la L2 et la L3, j'ai essayé de changer par désespoir, en fait. J'avais tellement peur de ne pas réussir ma L3 de maths que je me suis dit, bon, peut-être si je passe en éco, en L3 éco, qui est la deuxième branche, en fait, la plus importante à Dauphine, ça va mieux se passer. Et ça, c'était quelque chose que beaucoup de matheux avaient fait. Ils sont passés en éco, et après, les masters sont plus en finance, etc. Ce n'était pas ce que je voulais. Encore une fois, mais en fait, j'avais tellement peur de ne pas réussir que je me suis dit, bon, peut-être qu'il faut que je fasse ça. Et je me souviens que j'ai été refusée. Dieu merci, j'ai été refusée. Dieu merci, j'ai été refusée. Parce qu'en fait, c'est pas une question de confiance, c'est une question de, en fait, t'as pas le choix. Il faut que tu te donnes. Donc moi, mon état d'esprit pendant toutes ces années, c'est pas de me dire, bon, ça va bien se passer, je vais y arriver. C'est mon état d'esprit, c'est j'ai pas d'autre choix que de me donner à fond. Et en fait, tu continues. Quand une porte se ferme, au lieu de rester devant la porte fermée, oh, elle s'est fermée, qu'est-ce que je veux, faut juste, ok, lesquelles sont ouvertes. Et en fait, c'est comme ça que j'ai vécu une année après année. C'est que maintenant que je me dis, oh, j'ai fini. Mais à aucun moment, c'était évident que ça allait se passer. Et c'est pas grave. Le doute, en fait, je vivais avec. J'étais bon, je sais pas, mais...
Puis qu'est-ce que tu te dis ? Est-ce que c'est tes proches, c'est les personnes qui t'entourent ou c'est toi-même, tu te dis, ça va aller, c'est pas grave, j'avance ?
Non, c'est moi. Encore une fois, l'analogie, c'est vraiment être au milieu de l'océan. Il faut continuer à nager, en fait. T'as pas d'autre choix. Donc, on continue.
Est-ce que
Je sais, j'essaie de lier ça à quelque chose de concret. Et en fait, c'est juste pour essayer de voir si je peux trouver une...
Ouais.
Est-ce que tu penses que c'est aussi typiquement ta pratique du basket? Genre, OK, bah, j'ai pas réussi à la mettre, je la mettrai la prochaine fois. Comment toi, tu réussis à garder cette mentalité et cette volonté d'avancer?
Tout à l'heure, on parlait de lacunes. Mm-hmm. Enfin, en mathématiques, mm-hmm. en fait, l'approche qu'il faut avoir, c'est se concentrer sur ses lacunes. Et en fait, ma vie, c'est comme ça que je la vois également. Donc, pendant mes études, donc, j'étais face à tous ces échecs. Pour moi, en fait, je voyais toutes ces lacunes mm-hmm. que j'avais. Et ma concentration, en fait, je me concentrais sur quoi faire pour ne plus avoir ces lacunes. Donc, toute mon énergie, elle était concentrée sur... En fait, j'étais dans un bateau qui était en train de couler, on ne va pas se mentir, parce qu'il y, a, voilà, il y avait des trous partout, il coulait un peu. Et au lieu de rester là et de me dire « Oh, mon bateau, il coule, il y a de l'eau qui rentre, peut-être que je n'aurais pas dû monter sur ce bateau », en fait, toute ma concentration, elle était « Comment est-ce que je remplis ces trous ?» Et c'est comme ça que, en fait, jusqu'au bout d'un moment, j'ai fini avec le dernier trou et je me suis rendu compte que c'était le dernier.
Okay.
Donc voilà, je me concentrais sur les lacunes et j'essayais de trouver des solutions, une par une, pas tout à la fois. Parce que si j'essaie de faire tout à la fois, je désespère. Une par une. Je commence par la plus facile. Tu vois, par exemple, j'avais une matière où voilà, il me fallait 10, je suis à 9,5. Ok, qu'est-ce que je peux faire pour avoir 11? C'est pas trop loin, je peux essayer d'avoir 11. Mm. Quand ça c'est fait, ok, on passe à la prochaine. Et voilà, petit à petit comme ça. Mm.
En gros, ce qui est hyper intéressant du coup dans ce que tu me dis, c'est que au lieu de voir au lieu de regarder l'intégralité du problème et de paniquer, en gros, tu essayes de mettre des étapes pour essayer d'avancer progressivement.
Oui, en fait, je vois vraiment, c'est vraiment le bateau avec des trous. Et ça, c'était vrai aussi dans ma recherche de stage. C'est-à-dire que bon, là, j'avais un semestre vide parce que voilà, j'avais retapé en gros un semestre. Donc, j'avais un semestre où il n'y avait rien. Et j'avais un choix, en fait. J'aurais très bien pu juste me reposer. Ça aurait été complètement valide. Mais moi, je me suis dit, qu'est-ce qui me manque actuellement que je pourrais remplir? Et en fait, ça a toujours été ça, ma mentalité. C'est qu'est-ce qui manque? Et qu'est-ce que je peux faire pour que ça manque plus?
Tu es actuellement data scientist?
Oui.
Est-ce que tu peux nous donner, par exemple, une semaine type ou un mois type au sein de ton taf?
Je peux donner une semaine typique actuellement. Elle serait très différente d'une semaine typique il y a 2 ans.
OK.
Mais je vais donner une semaine typique actuellement parce que c'est celle que je préfère le plus. Donc, j'aime beaucoup mon travail. Donc, moi, actuellement, je suis dans une équipe qui mélange des ingénieurs et des data scientists. Et on travaille dans l'espace de traduction. Donc, par exemple, on a un seul produit Microsoft. Du coup, on a un produit que tout le monde connaît qui est Word, Office, Microsoft Office. Et en fait, moi, mon équipe, son travail, c'est, par exemple, de faire en sorte que les gens en Thaïlande et les gens au Brésil et les gens en Irlande, tous peuvent avoir une bonne traduction de ce service dans leur pays. Donc voilà, on fait beaucoup de traductions. Et en fait, mon travail à moi, c'est d'utiliser du coup ces données. On crée des modèles, donc ce sont des modèles mathématiques, pour pouvoir, en gros, prédire les meilleures traductions. Donc, c'est très mélangé avec l'IA actuellement et tout ce qui est voilà, LLM et tout ce qui est dans l'actualité. Mais voilà, une semaine type, en réalité, pour moi, c'est juste... c'est littéralement ça. C'est-à-dire, j'ai plein de données et j'essaye de voir comment est-ce que je peux faire en sorte que les traductions soient les plus réelles possibles pour des gens, pour des cultures et en fait des langues qui sont tellement différentes les unes des autres, avec tellement de spécificités uniques en fait les unes aux autres. Donc voilà, et on travaille beaucoup avec les ingénieurs. Donc j'apprends beaucoup d'eux, qui font des trucs que je ne comprends pas la majorité du temps. Et voilà. Et je vais au bureau la majorité du temps parce que c'est cool.
Ça me permet de parler avec d'autres êtres humains et d'apprendre énormément d'eux en réalité. Et ça facilite beaucoup le travail quand tu te fais des liens. Donc, voilà.
Et ce travail, tu l'as trouvé comment ?
Alors, moi, j'étais encore en master. J'étais en train de postuler pour mes stages de fin d'études à l'époque. Donc, c'était bien avant avoir fini mon master. Et je savais que je voulais revenir à Dublin. Et j'ai vu cette offre de Microsoft. Et en réalité, j'ai postulé pour la blague parce que je ne pensais vraiment pas qu'ils allaient me rappeler. Donc, j'ai postulé et j'ai oublié. Et entre-temps, voilà, j'avais trouvé mon stage de fin d'études à Paris. J'avais commencé... Non ! Non, pas du tout. Ah oui, effectivement, j'avais trouvé mon stage de fin d'études à Paris, mais je ne l'avais pas encore commencé.
Mmh.
Et avant de commencer mon stage de fin d'études, je reçois un mail, peut-être 3 mois après avoir postulé chez Microsoft, comme quoi bah, ils m'invitaient pour des entretiens. Et pour être honnête, je pensais que c'était un spam. En fait, j'avais oublié que j'avais postulé. Voilà. Pareil, le processus d'entretien chaotique, comme mes études. Vraiment, enfin, pas dans le sens où j'y arrivais pas, mais dans le sens où, en fait, il y avait des problèmes de d'organisation, il y avait des problèmes de réseau. En fait, catastrophique. Mais comme pour mes études, on pousse, on continue, on regarde là où il manque un truc, on avance. Et finalement, j'ai eu l'offre le jour où j'ai commencé mon stage de fin d'études. Donc en fait, en allant à mon stage de fin d'études, je savais déjà que j'allais avoir... que j'allais pas continuer avec eux, en gros. Et que vraiment, par la grâce de Dieu, j'avais un travail à la fin. Dans le pays où je voulais retourner.
Incroyable.
Ouais.
Chou, déjà félicitations.
Merci beaucoup.
Et est-ce que tu penses que tu aurais postulé si tu n'avais pas fait ton Erasmus, c'est ça ?
Ah, en fait, exactement. Mon Erasmus, il a énormément... En fait, il a été bénéfique dans les deux sens.
Mm.
C'est-à-dire que moi, il m'a donné la certitude que je voulais venir vivre ici.
Mm-hmm.
Mais aussi le fait qu'ils aient vu l'université... Ça l'a aidé à me choisir. Et je pense que, et en fait, c'est encore une fois, mes échecs ont ouvert des portes. Parce que si j'avais pas eu si j'avais pas eu ce trou dans mon semestre qui fait que j'avais fait mon stage, qui fait que, en fait, j'ai été choisie pour aller faire l'Erasmus, mais aussi par Microsoft, tout est arrivé comme il fallait. Pendant tout ce cheminement, j'ai gagné, je l'espère, en humilité aussi.
Je pense que ouais. Juste pour finir sur ce volet, qu'il ne faut pas forcément écouter ses profs tout le temps. Parce que dans ton cas, Loubla, si tu les avais écoutés, tu n'aurais pas été là. Parce que tu n'aurais pas fait ton échange Erasmus.
Oui, oui. Parce que la réalité, c'est que... En fait, les profs, il faut les écouter dans là où ils sont excellents. C'est-à-dire que si tu ne sais pas, tu as besoin de conseils par rapport à la matière qu'ils enseignent, il n'y a pas mieux, en fait, pour demander. Par contre, quelles sont les opportunités, peut-être en Pologne, je ne sais pas moi, ou en Inde, ou je ne sais où. Donc voilà. Et puis, en réalité, on est jeune, on a beaucoup de temps. Il faut prendre des risques. Il n'y a jamais de regret à prendre des risques.
Oui, c'est clair. C'est clair. On vous invite à en prendre. Là, pour terminer cet épisode, est-ce que tu peux nous partager des conseils ou quoi que ce soit d'autre, qu'un mentor, un sponsor, quelqu'un qui t'a soutenu ou que t'admires, a pu te partager directement ou indirectement, ou tout simplement, est-ce que t'as des conseils pour les personnes qui nous écoutent ?
Alors, j'ai eu des mentors. Moi, en réalité, je pense que j'ai eu des mentors tout au long de ma vie.
Okay.
Tout au long de ma vie, j'ai eu des mentors dans le sens des gens que j'admire, mm-hmm, et que j'aspire à tendre vers ce qu'ils sont.
D'accord.
Et en fait, ils existaient parce que je les cherchais en réalité.
Ok.
Donc, ce n'est pas des gens qui ont juste apparu, mm-hmm, dans ma vie, c'est qu'en fait, je cherchais. Et en fait, quand je les remarquais, j'allais vers eux, j'avais soif de leurs conseils, de leurs... Ces dernières années, oui, j'ai eu pas mal de mentors parce que, vu que c'est un schéma qui se répète, mes premières années chez Microsoft étaient aussi chaotiques. Et j'étais perdue et c'était difficile et je comprenais pas ce qui se passait. Enfin, et j'avais besoin qu'on me guide. J'avais besoin qu'on me dise. Donc voilà. Donc j'ai cherché des personnes. Et ça, c'est un très bon conseil qu'on m'avait donné. C'est prends conseil des gens que tu admires. Pas des gens qui réussissent, mais des gens que tu admires. Parce que parfois, on peut avoir des gens qui ont fini avec énormément d'argent ou avec énormément de pouvoir, de notoriété. Mais en réalité, est-ce que tu as envie d'être ces gens-là ou plutôt est-ce que tu veux juste qu'ils ont Ça, c'est une importante distinction à faire. Donc moi, j'ai pris conseil des gens qui être comme eux. Donc voilà, j'ai eu pas mal de personnes à mes premières années chez Microsoft que j'ai demandé plein de conseils. J'étais perdue. Je prends pas tous leurs conseils. Je prends ceux qui, pour moi, sont alignés avec mes valeurs.
D'accord.
Mais oui, j'ai eu pas mal de mentors.
Est-ce que tu as 2-3 conseils que tu voudrais nous partager ou...
Alors, pour les gens qui finissent leurs études, c'est violent, mais en fait, il faut complètement se détacher du système scolaire, qui est qu'on te dit étudie ça. Et je pense qu'en fait, tu as plein de personnes que tu as interviewées qui disent la même chose, étudie ça pour avoir ça. Pour arriver à ça. Là, pour le coup, on compte sur toi pour trouver ce qu'il faut faire. Donc, c'est une méthodologie différente. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, trouve quelqu'un, vraiment trouve un mentor. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent, consciemment ou inconsciemment, en fait, ils vont essayer de profiter du fait que tu es tout nouveau, toute nouvelle, peut-être un peu de naïveté. Donc, tu as besoin de quelqu'un un peu à côté de toi pour te dire non, ça, c'est pas normal, ou ça, oui, c'est normal. Et essaye plein de choses. Ça serait le dernier conseil. S'il y a un truc qui ne te plaît pas, essaye et puis essaye de changer. Il faut, encore une fois, tester plein de choses et continuer d'avancer. Et le fait que quelque chose soit difficile et inconfortable, ce n'est pas forcément un signe que tu n'es pas au bon endroit. Le signe que tu n'es pas au bon endroit, c'est soit tu es en train de faire des choses qui sont en opposition avec tes valeurs, soit en fait tu fais quelque chose qui te déplaît très profondément et pas parce que c'est difficile pour une raison autre que c'est compliqué.
Merci Lumna, t'as été incroyable.
Merci Yuslat.
Et merci à toi de nous avoir écoutés. En tout cas, si t'as pas pris de notes jusqu'à maintenant, je t'invite à écouter l'épisode et à en reprendre. Surtout, n'hésite pas à m'écrire sur TikTok, Insta, Threads, X et toutes les plateformes auxquelles tu peux penser. Si tu as des questions ou si tu aimerais que je pose des questions un peu plus différentes aux prochaines invités et aux prochains invités. Et surtout, n'oublie pas de suivre le podcast sur la plateforme que tu préfères.